Je n'ai pas les réponses à vos questions, c'est que, dit autrement, je vais vous dire ce que moi je pense, mais en fait, il faudrait aller interroger les acteurs que vous avez mentionnés pour savoir comment eux se positionnent. Sur la première question, je vais à nouveau, renvoyer à Bruno et à ce qu'il essaye de mettre en place. Il me semble que l'Anthropocène, si on veut aussi rentrer dedans, c'est ne pas adopter une certaine posture d'humilité qui a déjà été mentionnée, et puis c'est surtout être amené à se reposer quelques questions fondamentales. Les questions que la Tour propose de se poser, c'est à quoi est-on attaché, de quoi dépend-on pour vivre, avec qui est-on prêt à passer alliance, contre quoi ou qui est-on prêt à se battre. Alors, la première fois qu'il m'avait expliqué qu'il voulait mener des ateliers dans les territoires avec ces questionnements-là, et que ça devait déboucher sur l'élaboration de cahiers de doléances, bon, c'était juste 3 mois avant les Gilets jaunes, c'était vraiment 3 mois avant les Gilets jaunes, et je me disais, mais quand même, discuter avec un aussi grand philosophe et penseur pour qu'il propose des questions aussi simples que ça, je n'étais pas déçu, c'est quand même nettement moins subtil que ce que l'on fait déjà dans les territoires quand on va faire des diagnostics, des machins, des trucs, quoi. Si ce n'est que ça a un très très gros avantage, c'est que ces quelques questions obligent tout de suite à penser sa situation dans le territoire dans lequel où on est. Et ça paraît bête, mais se dire, mais ce que je mange, ça vient d'où ? De quel type de flux je dépends ? Où l'énergie est produite ? Par qui ? Etc. Je l'ai testé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le coup. Tout de suite, quand vous posez ces questions-là, puis que les gens se disent « Ah bah oui, alors on dépend à 100% de l'essence que nous livrent les Américains, on dépend à 95% de la nourriture qui nous vient du Canada, etc. etc. » D'un seul coup, on se dit « Bah voilà, mon territoire, en fait, c'est pas une île, quoi, hein. ça s'arrête pas au rivage. » Donc, ça oblige à se reposer des questions tout à fait fondamentales et très rapidement à se dire « Mais est-ce que cette situation-là de dépendance me rend vulnérable ou pas ?» Et à quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'apprend ? Donc, en fait, c'est des petites questions, mais qui me semblent très efficaces collectivement pour se dire, mais finalement, de quoi je dépends et à quoi je tiens réellement. Néanmoins, et malheureusement, il me semble que pour être encore plus efficace, et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que disent les acteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon à nouveau, ils disent, bon, nous, on a bien compris que notre système, il est mort, il ne fonctionne pas, il est condamné. Ils disent, mais malheureusement, on ne pourra pas en changer s'il n'y a pas de rupture. Alors là, vous dites, bon, alors attendez, vous êtes en train de me dire qu'il va y avoir une rupture, mais que s'il n'y a pas de rupture, on ne pourra pas changer. Enfin, vous voyez, c'est un raisonnement circulaire, mais en même temps, je pense que ça traduit très très bien quelque chose qui ne caractérise pas que Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est-à-dire que pour ces questions relativement simples de dépendance et d'attachement, on se les pose sérieusement, en s'y engageant, s'il n'y a pas à côté un motif beaucoup plus traumatique, et en le disant, j'aime pas le dire, mais on sent bien que là, en l'occurrence, ils sont prêts à se le poser parce qu'il y a une submersion, parce qu'il y a eu quelque chose qui les a marqués. Se poser les mêmes questions quand tout va bien et quand les inondations, c'est dans d'autres pays, ou la sécheresse, ou etc., dans d'autres pays. Je sais pas si vous avez lu, mais moi, j'ai pas vu d'article où on se posait la question de savoir si la France pourrait être victime des incendies comparables en Australie et quelles conséquences ça pouvait avoir, quoi. Ce serait souhaitable, mais je veux dire, c'est resté loin, quoi. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a les deux. Pour répondre, c'était un peu long, pour répondre à votre... c'était quoi la deuxième question, déjà ? Oui, mais quoi, précisément ?
Le local.
Ah oui, le local, c'était ça. J'ai pas la réponse, il faudrait aller interroger les acteurs nantais pour avoir la réponse. Mais néanmoins, je trouve que dans la manière dont vous avez posé la question, c'est toujours un classique, hein, l'effet miroir quand on ne sait pas répondre, la manière dont vous avez posé la question laissait supposer en fait que c'était soit l'un soit l'autre. Vous voyez que c'était... Or, de fait, on peut très bien avoir un engagement local. Très bien avoir un engagement local sans pour autant être dans une logique. L'engagement local ne signifie pas forcément repli. L'engagement local ne signifie pas forcément enfermement, frontière. Alors là, pour le coup, la Tour démontre ça très bien. C'est-à-dire que ces deux attracteurs qui, à mon avis, fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas le global d'un côté et le localisme de l'autre, les deux fonctionnent ensemble. C'est parce qu'il y a du global qu'il y a du localisme, et le localisme... Donc, rentrer dans l'anthropocène, de toute façon, ce n'est pas adhérer à l'un ou l'autre, c'est en sortir. Et ça va avec, ça peut passer par un engagement situé, à mon avis, sans aucune difficulté, voire même, ça doit passer par un engagement situé. On ne peut pas répondre à des problèmes globaux, c'est ce que disent de plus en plus de géographes ou d'écologues, si ça ne passe pas d'abord par une action dans le milieu où on vit.
Oui, je continue ce que tu viens de dire, sur le global local, c'est exactement ça que je voulais dire quand je disais on a du mal à penser parce qu'on pense dans les catégories de la mondialisation d'avant, c'est pour ça que je parlais de Smith, de la mondialisation par le marché, où on a pensé comme des catégories antithétiques. Et moi, je peux vous dire, parce que j'en ai tellement marre qu'on accuse de pétainistes les environnementalistes qui s'occupaient du local, je suis allé relire, enfin, pas directement les discours de Pétain, mais un livre sur les discours de Pétain, ça n'a rien à voir. Hein, c'est-à-dire que vraiment, le local, c'est de l'anti-cosmopolitique. Et le cosmopolitique, c'est ONI. C'est pour ça que je vous ai dit, Gemelle et Latour, c'est les mêmes. Hein. Et lundi, il peut y avoir de politique de l'anthropocène que en cosmopolitique. Et Latour écrit « Où atterrir ?». Et donc, il faut avoir les catégories qui nous permettent de penser les deux à la fois. Alors, je voulais faire deux remarques. Là aussi, moi, je n'ai pas de réponse directe à donner, mais peut-être faire des remarques. Je pense que ce qu'on appelle écologie politique, quand c'est lié à l'existence d'un parti, il y a un gros problème de national. En ce sens que dans une démocratie représentative comme la France, exister comme parti, c'est avoir un certain nombre d'obligations d'existence au niveau national, de se constituer en parti, d'avoir des résultats aux élections, qui font qu'on n'est plus qu'un parti comme les autres, hein, même si on s'appelle les Verts, et que finalement on s'occupe plus beaucoup d'écologie. Il y a un problème là. Hein. Bon, j'ai présidé la Fondation de l'écologie politique, ça m'a amené à réfléchir un peu à ce genre de sujet. Donc je pense qu'on peut. Moi, ce que j'ai vu le mieux réussir, c'était des gens qui étaient dans des associations, que ce soit FNE, que ce soit des associations naturalistes en Alsace, et qui ensuite passaient à l'Europe. Il y a une sorte de lien investissement sur des questions, ça peut être des questions de biodiversité, ça peut être des tas de questions, et ensuite les gens qui se retrouvent députés européens et qui là font un travail extraordinaire. Et il y a un problème, alors ça devient vraiment un problème politique, au sens des institutions de démocratie représentative au niveau national. C'est autre chose. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui me frappe, et ça demanderait de faire un retour réflexif sur qui vous êtes, quel type de présentation vous attendez. Moi, qui écoutais ce qui se disait, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est quand même le côté très, je vais prendre du vocabulaire managérien, très top-down. Voilà. Il y a quand même la conviction que. Il y a des gens, des scientifiques, des décideurs qui savent ce qu'il faut faire, hein, les scientifiques vous disent, on vous l'a dit hier, c'est quoi un objectif, hein, qu'est-ce que ça représente, en quoi 2 degrés, c'est pas les scientifiques qui définissent qui disent 2 degrés, mais eux ils peuvent donner un contenu aux 2 degrés et décideurs. Bon. Tout ça, donc il y a des rapports du GIEC, s'adresser à des décideurs à différents niveaux, donc ça peut être au niveau national, territorial, etc. Et après, il faut trouver, c'est un terme moi personnellement que je déteste, il faut trouver les bons leviers, c'est la mécanique, hein, il faut trouver les bons leviers pour agir sur les gens qui sont en bas, qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, qui ne sont pas forcément stupides, mais en gros, quand même, ils sont plutôt ignorants et ils ne sont pas très bien disposés. Moi, je veux bien, mais il se passe aussi exactement le contraire. Et quand on regarde un peu tout ce qui se passe, bon, c'est pour ça que je citais Gérald Martinez-Aguirre, mais on peut rester en France, la quantité d'initiatives, la quantité dans l'agriculture, d'agriculteurs qui, par exemple, passent au biologique, simplement, il faut 4 ans hein, pour passer au biologique, en gros. On leur a promis des aides, elles ne viennent pas. Hein. Donc on a aussi exactement le modèle à risque. C'est-à-dire des gens qui font des choses, qui auraient besoin d'être accompagnés, parce que ce n'est pas forcément antithétique, mais qui auraient besoin aussi d'être reconnus. Et je voudrais ajouter, parce que je pense que dans ces deux choses, on s'est rendu compte à quel point les mots, c'était important. Souvent, ce qu'ils font, ils n'appellent pas ça de l'écologie. Ils ont des initiatives qui font leur intérêt, hein, pas forcément pour le bien commun immédiatement, mais quand on les regarde de l'extérieur, bah, ça a des bons effets écologiques, c'est des formes de solidarité, mais eux, ils n'appellent pas ça écologie. Et donc, l'écologie, c'est ce qui vient d'en haut. C'est la fin des journées, donc je ferai une quasi-anecdote une enquête qui était faite auprès d'agriculteurs, je crois que c'était du département de Savoie et du Haut-de-Savoie, on leur posait un certain nombre de questions, et on leur disait biodiversité. Et ils disaient, c'est les papiers administratifs. Il n'y a que de ça, hein. Il y a des problèmes de vocabulaire.
Il y en a là.
Pierre,
je ne veux pas
redire ce qu'on a déjà dit, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas entendu, moi, personnellement, les scientifiques, je les ai pas entendus dans une république top-down, arrogante, etc.
C'est pas forcément arrogant, le top-down, ça peut être très
pédagogique. Je pense que c'est pas incompatible, quoi, de dire il faut. Il y a une énorme diversité de c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, qui a d'ailleurs écrit, et, il y a un contraste entre une espèce de piétinement au niveau national, au niveau des grandes politiques, et une extraordinaire créativité au niveau des territoires, avec une situation un peu de no-bridge entre ce qui se passe au niveau des territoires et ce qui se passe au niveau national, ou plutôt ce qui se passe pas, et international encore moins, parce que là on voit bien qu'il y a des. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Moi, j'étais très frappé quand j'ai rencontré les gens. Il se trouve que j'ai eu la chance de présider un jury d'experts là, qui a examiné le projet TIGA, dans lequel vous avez peut-être été impliqués, certains d'entre vous, en tout cas, pour la première phase. Je n'ai pas été dans le jury final. On a tous été des gens d'origine très diverse hein, dans ce jury. Il y avait des gens des sciences humaines, de différentes branches aussi d'ingénierie et tout ça, on a été bluffés par la diversité, parce que pour une fois c'était un appel à l'idée qui n'était pas cadré. On avait dit, dites-nous ce que vous avez envie de faire. Et on a vu surgir un extraordinaire de projet. Moi j'étais assez fasciné par la diversité de ces projets, la modernité pas au sens de la tour, mais disons, enfin, il y avait une très grande créativité. Et donc voilà, mais en même temps, on voit bien que, enfin, moi c'est mon point de vue, et là on diverge probablement, moi je pense que c'est pas absurde que ce soit ensuite relayé ou complété par des travaux scientifiques. Hein. J'écoutais Abadi ce matin, il disait lui-même, il y a énormément de gens qui font de la recherche sur ces sujets-là. Je trouve que les mettre un peu plus en connexion avec ce qui se passe sur les territoires, ce serait quand même intéressant, quoi. Dire voilà, sans qu'ils viennent donner des leçons, d'ailleurs on ne sent pas. Moi je pense que les bons scientifiques et même les bons ingénieurs ne sont pas dans des attitudes de donner un peu de leçons. Ça c'est les mauvais ingénieurs et les mauvais scientifiques qui sont comme ça. Et là je pense que l'expertise si vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que l'expertise ne compte pas. Enfin, tout ce discours qu'on tient n'existerait pas, quand même, d'une certaine façon, si on n'avait pas eu l'expertise globale du GIEC et de toutes ces... Et de tous ces gens qui ont quand même tiré la sonnette d'alarme. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, on dirait qu'il y a des incendies en Australie, on ne serait pas en train de se dire on va peut-être aller avec nos 2 degrés, 4 degrés, vers une situation catastrophique. Alors j'entends qu'il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps sur d'autres choses, et qu'il y a eu depuis très longtemps la vision du système Terre. Et... Donc moi, je pense qu'il faut être extrêmement... Là aussi, je pense qu'il faut tenir un peu le bout de la chaîne. Peut-être juste un commentaire sur l'aspect local qui a été posé, parce que, bon, moi j'ai parlé un peu de tournant local, parce que ce qui m'a frappé aussi, si je reprends le projet de TICA, c'est qu'ils étaient extraordinairement locaux, mais même un peu localistes. C'est-à-dire que, quand même, il y avait l'idée que, finalement, on allait réfléchir maintenant complètement à partir du local. Bon, alors on va... Et des circuits pour alimentaires, etc., etc. Vous voyez tout ça. Avec même parfois derrière une espèce de fantasme, d'idée de sinon d'autarcie, parce que ça, je pense, personne n'est suffisamment envie d'aller vers l'autarcie, mais quand même d'autonomie croissante. Autonomie croissante qui peut se justifier parce que par exemple, en matière énergétique, elle est plus résiliente que. Alors, moi, je trouve tout ça. Je trouve ça extraordinairement positif, au moins de deux points de vue. Premièrement, l'énergie du changement, c'est ce que dit Bruno Latour. Bruno Latour, il dit le local, il faut quand même être conscient du fait que, même si ce n'est pas pétainiste, il y a quand même toujours derrière le mot local et le localisme, un peu cette connotation. D'ailleurs, c'est pas. Je vous fais remarquer, par exemple, le tournant récent du lepenisme, enfin de Rassemblement National, sous l'influence intellectuelle d'Hervé Juin, qui est maintenant c'est local écologique, discours officiel.
Mais j'en tire pas l'écologie patriote.
Non mais j'en tire pas de conclusion, je ne disqualifie pas pour autant. Mais certainement pas. Mais il faut savoir que cette tendance-là existe depuis longtemps. Deuxièmement, la chose. Très positif, c'est qu'effectivement, c'est concret par rapport à la espèce de tétanie dans laquelle se trouvent les institutions à un niveau supérieur, qui n'osent pas bouger, qui ne savent pas comment bouger, ça donne de l'énergie aux gens. Parce que c'est concret, on voit ce dont on dépend, etc. Donc, moi, je trouve ça fondamentalement positif. Maintenant, en même temps, comme tu l'as dit, dès qu'on commence à regarder de quoi je dépends, on s'aperçoit qu'on dépend. Les interactions sont beaucoup plus ramifiées, importantes que ce qu'on imagine a priori. Si on prend simplement des actes de la vie quotidienne, vous prenez les objets que vous utilisez, et qu'on regarde toutes les connexions interspatiales, souvent mondiales, qu'il y a derrière tous ces objets, je ne parle même pas de... On pourrait prendre l'objet emblématique que vous avez tous, qui est le smartphone, dans lequel il y a le monde entier. Il y a la moitié du tableau de Mendeleïev en matière d'éléments chimiques, et il y a le monde entier, depuis les mineurs de cobalt du Congo, etc. Enfin, c'est absolument fascinant de voir à quel point on est aujourd'hui dans un monde incroyablement interconnecté, qu'on ne va pas en sortir du jour au lendemain en disant le local, le local, le local. Voilà, donc ça, il faut prendre conscience de ça. Et la façon dont Bruno Latour, d'ailleurs, parle du territoire, il le situe sur un axe différent, puisque on a beaucoup parlé, donc je vous incite à lire le livre qui s'appelle « Comment atterrir ». Difficile de ne pas lire. Vous verrez que ce n'est pas un livre très simple non plus, parce que Latour parle d'une langue qui est le latourien, et il faut l'apprendre. C'est du latourien, plus accessible dans ces livres-là que dans d'autres. Mais le territoire dont on parle, c'est pas le territoire nous qu'on a en tête, parce que justement, il prend ses différentes ramifications. Donc j'ai un peu peur de toute façon, certains géographes, vous l'avez dit d'ailleurs, qui ont tendance à dire, bon, vous voyez, la tour est avec nous, bon, ok, voilà. Donc moi je suis, il faut aller dans ce sens-là, mais attention, il faut rester conscient du fait qu'on a ces interactions à un haut niveau. Et deuxièmement, et troisièmement, je ne sais plus, et le point à ça, c'est quand même très important, c'est que il y a une espèce peut-être d'utopie qui existe aujourd'hui de manière diffuse, qui est de dire on pourrait avoir au fond un monde de réseau d'unités essentiellement locales. Il y a des gens, Adam Gors a parlé de ça à un moment donné sur le système industriel, en disant bah, plutôt que ce système industriel absurde interconnecté avec des composants qui circulent à travers le monde, on pourrait avoir des unités relativement locales, autonomes, avec de la technologie, hein, pourquoi pas. Il ne s'agit pas de revenir à... au monde du Moyen-Âge ou pré-industriel, mais voilà. Et donc cette idée d'un monde de systèmes locaux relativement autonomes qui seraient alors évidemment ouverts sur les autres et mis en réseau les uns avec les autres, et je pense derrière pas mal d'utopies qu'on voit aujourd'hui, hein, y compris d'ailleurs dans le mainstream industriel, hein, de la façon dont les énergéticiens, etc., résonnent, enfin aussi un peu dans ce sens. Ça pose quand même des problèmes, parce que n'oubliez pas que le réseau, la mise en réseau, sans autre chose, c'est la loi du plus fort. Hein. C'est-à-dire que nos systèmes politiques et démocratiques, pour l'instant construits autour des États-nations, qui auraient intérêt, à mon avis, à s'étendre, sont quand même les seules formes efficaces qu'on a aujourd'hui de redire, à la fois de péréquation d'équité, par exemple, on pense au tarif de l'électricité, si on a du renouvelable partout, avec les prix. Simplement lié aux ressources locales, ben, on va payer l'énergie beaucoup moins cher là où on aura des ressources, et beaucoup plus cher là où il n'y en a pas. Ça veut dire que les gens des vallées alpines, par exemple, bon, ils n'auront pas l'énergie parce qu'ils ont la chance d'habiter en dessous des barrages, etc. Donc on a une construction à la fois démocratique et économique, d'économie politique, qui a fait de la péréquation par rapport à ça. Deuxièmement, il y a de la redistribution de manière importante. Le seul outil qu'on a aujourd'hui de redistribution efficace, comme vous le savez, par l'impôt, par les tarifs, par toutes sortes de choses, c'est l'État-nation. Je ne suis pas en train de tenir un discours souverainiste, pro-national, etc. Mais voilà, il faut... Et puis pour finir, moi je pense peut-être... Je pense qu'on est dans une rupture, mais en même temps... On va être dans un monde hybride, c'est-à-dire dans un monde où des systèmes très différents, c'est-à-dire ça qui est intéressant, vont continuer à coexister. On ne va pas du jour au lendemain se débarrasser de tous ces systèmes labyrinthiques, économiques et techniques dans lesquels on est immergé. C'est pas pensable, simplement pas pensable. C'est extraordinairement difficile. Donc, ce monde-là, il va rester d'une certaine façon. Puis il y a des mondes nouveaux qui vont progressivement, non pas se substituer, je crois pas, et s'ajouter, s'articuler à ça. Donc je pense que c'est très important. Pour le dire autrement, je pense qu'un certain radicalisme écologique, parfois, qui consiste à dire qu'il faudrait remplacer ce monde qui déconne complètement par un nouveau monde complètement construit, finalement, il est contre-productif, de mon point de vue, parce qu'il fait tellement peur et qu'on ne sait pas comment on va du point A au point B. Hein. Alors, la réponse est peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir comment on va du point A au point B, on laisse jouer la spontanéité et la créativité de la société, à partir du local en particulier, et puis on verra bien. Bon, moi j'ai tendance à penser qu'on a quand même maintenant une situation d'urgence planétaire, et que par rapport à cette situation d'urgence planétaire, il faut quand même aussi qu'au-delà des initiatives, de la créativité et des luttes locales, on sache s'organiser aussi un peu à l'échelle. Aux autres échelles.
Oui,
c'est pas où qui veut dire nous avons parlé de récits, Stéphane aussi. On a beaucoup parlé de récits repoussoirs, et on a très peu parlé de récits désirables. Là, Pierre nous dit qu'il faut quand même savoir où on va.
Il faut inventer où on va.
C'est donc il faut.
Et même si
c'est divers, il faut qu'on ait une forme de. Des formes de récits d'un futur désirable. Et moi, je les ai quand même très peu entendues pendant ces deux jours. On a toute l'année pour en entendre. Mais je trouverais ça Voilà, intéressant peut-être de prendre les minutes qui nous restent pour faire émerger quelques silences. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu fais
Je vais surtout pas répondre à la question que tu poses, qui est une vraie question. Je pense qu'on a 8 ou 9 sessions thématiques. Et à différentes échelles géographiques pour donner du contenu à ta question. Si je prends l'exemple des mobilités que vous aurez le bonheur d'aborder, que nous aurons ensemble le bonheur d'aborder en octobre, je crois, il est clair qu'on peut avoir des objectifs et qu'on a aussi des chemins qui conduisent. Alors avec des limites, avec des échecs ou des insuffisances par rapport à un niveau d'exigence. Et par exemple, il y a déjà 10 ans, avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas m'en attribuer seul du mérite, on avait fait un scénario pour le transport routier de marchandises, on ne sait pas la planète entière, c'est une activité qui compte pour quoi 10% des émissions de gaz à effet de serre en France, et en France seulement, comme ça on peut extrapoler et élargir les conclusions. Diviser par 2 facile, enfin facile possible, divisé par 4, facteur 4, c'était l'époque où on en parlait, beaucoup plus dur. Neutralité carbone, alors là, je ne vois pas bien, je le dois dire, donc il faudra des compensations ailleurs. Mais ce n'est pas non plus un discours désespérant, ni top-down, j'ai la solution. Il n'y avait aucune solution magique. Il y avait des solutions à 2, 3, 4, 5%. Et puis quand on accumule des 5%, mais malheureusement, quand on avait 5% puis 2% après, c'est pas 7%, c'est 5% de 100 plus 2% de 95. Et donc voilà. Mais bon. Mettant bout à bout, opiniâtrement, modestement, des solutions partielles, incrémentales, on arrivait à des résultats substantiels. Et encore à l'époque, il y avait des ruptures technologiques qui nous semblaient de très long terme dans des utopies d'ingénieurs qui commencent à tenir des réalités industrielles, comme l'utilisation d'une électricité non carbonée pour les transports de voyageurs, c'est plus facile, mais un jour ou l'autre, et je crois peut-être bientôt, de marchandises. Donc ceci pour dire qu'il faut des objectifs, alors ça ne veut pas dire qu'on décrète une fois pour toutes un plan immuable. Moi je crois que la planification est une planification qu'on remet en discussion tous les 5 ans, par exemple quand on parle d'infrastructure, mais qu'on est près dans une situation de désespoir, de dénonciation, d'amertume, et je pense qu'au contraire, les alertes très inquiétantes qu'on a eues pendant ces 2 jours, et parfois dites de façon passionnante, nous incitent à travailler pour progresser et non pas se résigner.